L'amitié d'une servante.
Et quelques semaines passèrent, qui furent à peu près calmes pour l'Artois. Les partis adverses se retrouvèrent à Arras, puis à Compiègne, et le roi promit de rendre son arbitrage avant la Noël. Les alliés, provisoirement apaisés, rentrèrent en leur château sombre. Les champs étaient noirs et déserts. Les brebis bêlaient au fond des bergeries. Les aubes de décembre, fumeuses, ressemblaient à des feux de bois vert. Au manoir de Vincennes, entouré par la forêt, la reine Clémence découvrait l'hiver de France. L'après-midi, la reine brodait. Elle avait entrepris une grande nappe d'autel qui figurait le paradis. Les élus s'y promenaient sous un ciel uniformément bleu parmi les citronniers et les orangers, paradis bien proche des jardins de Naples. « On est parraine pour être heureuse », pensait souvent Clémence, se répétant les paroles de sa grand-mère Marie de Hongrie. Non qu'elle fût malheureuse à proprement parler, elle n'avait aucune raison de l'être. « Je suis injuste, » se disait-elle, « de ne point remercier à tout instant le Créateur de ce qu'il m'a donné. » Elle ne pouvait comprendre la raison d'une lassitude, d'une mélancolie, d'un ennui qui, jour après jour, s'appesantissait sur elle. N'était-elle pas environnée de 1000 soins? 6 dames de parage, choisies parmi les plus nobles femmes du royaume, et d'innombrables servantes se relayaient auprès d'elle pour exécuter ses moindres désirs, prévenir ses moindres gestes, porter son missel, préparer son aiguille, tenir son miroir, la coiffer, la couvrir d'un manteau, sitôt que la température rafraîchissait. Plusieurs chevaucheurs avaient pour seule mission de courir entre Naples et Vincennes afin d'acheminer la correspondance qu'elle échangeait avec sa grand-mère, avec son oncle le roi Robert et tous ses parents. Clémence disposait de 4 acnées blanches, harnachées de freins d'argent et de rênes de soie tissées de fil d'or. Et pour les longs déplacements, on lui avait offert un grand chariot de voyage si beau, si riche, avec ses roues flamboyantes comme des soleils, que celui de la comtesse Mao à côté semblait tout juste un char à foin. Louis n'était-il pas le meilleur époux de la terre? Parce que Clémence avait dit en visitant Vincennes que ce château lui plaisait et qu'elle aimerait y vivre, Louis, aussitôt, avait décidé de s'y installer à demeure. De nombreux seigneurs, imitant le roi, s'organisaient résidence dans les parages. Et Clémence, qui n'avait pas imaginé ce que serait l'hiver à Vincennes, n'osait avouer maintenant qu'elle eût préféré regagner Paris. Vraiment, le roi la comblait. Il ne se passait de jour qui ne lui portât un nouveau présent. « Je veux, mamie, lui avait-il dit, que vous soyez la dame la mieux pourvue du monde. » Mais avait-elle besoin de 3 couronnes d'or, l'une incrustée de 10 gros rubis balais, l'autre de 4 grandes émeraudes, de 16 petites et de 80 perles, et la troisième avec encore des perles, encore des émeraudes, encore des rubis? Pour sa table, Louis lui avait acheté 12 anapes de vermeil émaillé, aux armes de France et de Hongrie. Et parce qu'elle était pieuse et qu'il admirait fort sa dévotion, il lui avait offert un reliquaire d'un prix de 800 livres, et contenant un fragment de la vraie croix. C'eût été décourager tant de bon vouloir que de dire à son époux qu'on pouvait aussi bien faire sa prière au milieu d'un jardin, et que le plus bel ostentoire du monde, en dépit de tout l'art des orfèvres et de toute la fortune des rois, c'était encore le soleil brillant dans le ciel bleu au-dessus de la mer. Le mois précédent, Louis lui avait fait don des terres qu'elle irait visiter à une meilleure saison, les maisons et manoirs de Menneville, Ébécourt, Saint-Denis de Fermand, Vardes et Dampierre, les forêts de Lyon et de Bray. « Pourquoi, mon doux seigneur, lui avait-elle demandé, vous dépossédez de tant de biens en ma faveur, puisque de toute manière je ne suis que votre servante, et n'en puis profiter qu'à travers vous ?»« Je ne m'en dépossède point, avait répondu Louis. Toutes ces seigneuries appartenaient à Marigny, à qui par jugement je les ai reprises, et j'en puis disposer comme il me plaît. » En dépit de la répugnance qu'elle avait à hériter les biens d'un pendu, pouvait-elle les refuser, alors qu'ils lui étaient présentés comme don d'amour, et que cet amour, le roi tenait à le proclamer dans l'acte même de donation, pour la joyeuse et agréable compagnie que Clémence nous porte humblement et amiablement. Et il lui avait encore accordé en propriété les maisons de Corbeil et de Fontainebleau. Chaque nuit qu'il passait auprès d'elle semblait valoir un château. Ah oui, messire Louis l'aimait bien. Jamais en sa présence, il ne s'était montré hutin, et elle ne comprenait pas comment ce surnom lui était venu. Jamais de querelle entre eux, jamais de violence. Dieu vraiment lui avait donné un bon époux. Et malgré tout, Clémence s'ennuyait et soupirait en tirant les fils d'or de ses citrons brodés. Elle avait fait effort, vainement, pour s'intéresser aux affaires d'Artois, dont Louis, parfois le soir, discourait tout seul devant elle, en marchant à travers la chambre. Elle était effrayée par les grandes apostrophes de Robert d'Artois et la manière dont il lui criait « Ma cousine !» comme s'il arrêtait sa meute. Cet homme-là, pour elle, restait avant tout un étrangleur de renards. Elle était agacée par Monseigneur de Valois, qui souvent lui disait « Alors, ma nièce, quand donc donnerez-vous un héritier au royaume ?»« Quand Dieu voudra, mon oncle, » répondait-elle doucement. En fait, elle n'avait pas d'amis. Elle sentait, parce qu'elle était fine et sans vanité, que toute marque d'affection qu'on lui témoignait était intéressée. Elle apprenait que les rois ne sont jamais aimés pour eux-mêmes et que les gens, en s'agenouillant devant eux, cherchent toujours à ramasser sur le tapis quelques miettes de puissance. On n'est pas reine pour être heureuse. Il se peut même que d'être reine empêche qu'on soit heureuse, se répétait Clémence l'après-midi où Monseigneur de Valois, le pas toujours pressé, entra chez elle et lui dit « Ma nièce, je vous porte une nouvelle qui va fort agiter la cour. Votre belle-sœur, Madame de Poitiers, est grosse. Les matrones l'ont certifiée ce matin.